ils sont liés par un cordon ombilical académique que nous ne suspectons pas, puisque c'est le directeur de thèse que les autres, les anglo-saxons appellent les pères de la thèse. Donc, on va passer la parole, n'est-ce pas, d'abord au professeur Antoine, qui était déjà avec nous ici hier, et un anthropologue chevronné, qui est plus ou moins le grand-père dans ce type d'exercice. Il a été tout au départ, n'est-ce pas, de la gestation de cette école des sciences de la santé. Et certains membres de ce jury sont les premiers produits de sa parturition. Et donc, professeur, l'auditoire est tout de suite.
Merci infiniment, Père Recteur, pour la parole qui m'est donnée. Monsieur le Président de ce jury, c'est toujours avec un plaisir que je partage ce second jury avec vous pour cette année académique. On l'a fait en académie dernière. Je remercie également les experts, les examinateurs, autant pour moi, ils sont des experts, et qui ont bien voulu apporter leur contribution à l'évaluation critique de ce travail que nous avons eu le plaisir de diriger. Donc nous allons à notre tour les remercier pour le travail qu'ils ont accompli, qui a suscité leur contribution a certainement fait bouger un peu notre candidat. Il s'est rendu compte que la plupart du temps, ce que nous lui disions était vrai. Et lorsque la critique ou l'observation viennent des autres experts. Donc c'est l'exercice académique. Vous devriez prendre pour argent comptant tout ce qu'ils ont créé. Vous n'avez même pas le choix, puisque vous auriez à réviser votre tapisserie avant de le déposer. J'aimerais, pour mon intervention, revenir sur certains aspects qui n'ont pas paru, qui n'ont été assez clairement compris par certains membres du jury, en l'occurrence le professeur Mbemba. Je commencerai par au niveau du cadrage théorique. Voyez-vous, nous avons à ce niveau développé le problème social ou sanitaire et le problème de recherche, le problème scientifique. Le problème social, le candidat relève aux pages 15 et 18, il constate, sur la base des données statistiques dans le monde, que la mortalité maternelle est élevée. En Afrique, les estimations de 2023 sont assez alarmantes, soulevées par l'OMS, et sur ce point, on constate que il y a un nombre de plus en plus croissant de femmes qui accouchent. Chaque deux minutes, il y a un décès maternel enregistré dans le monde sous complications relatives à la grossesse ou à l'accouchement selon l'UNFPA. Donc ça, c'est assez préoccupant au regard des efforts que l'on sait qui ont été consentis par ces développeurs. Je désigne ici les organisations des Nations Unies, les développeurs, UNFPA, OMS, etc., sans polémique. Mais pour le cas du Cameroun, le candidat observe ou relève sur la base des données de EDS MIS et MIS Santé 2018 qu'il y a 33% de décès, en fait des accouchements qui se font à domicile, donc sans assistance des personnels qualifiés, et le taux de mortalité est estimé à 467 décès pour 100 000, alors que le taux de l'OMS est autour de 230. Voilà. Donc à partir de ce constat, ça c'est le problème sanitaire, ce qu'il a observé. Et on s'est donc allé développer le problème scientifique, le problème de recherche. Le problème scientifique ou de recherche, nous le posons comme la différence entre une situation normale, et une situation escomptée. La situation, enfin, une situation actuelle, vécue, qui est morbide, et la situation normale ou escomptée. Donc, en fait, c'est la différence, donc, pour le sentiment, donc, c'est la différence entre le normal et le pathologique. La situation pathologique est celle, qui est, qui tient sur le fait que 90% des accouchements se font à domicile et que la prévalence de la morbidité, de la mortalité, autant pour moi, des femmes qui accouchent en donnant naissance est élevée. Or, tout est fait par l'État, le Cameroun et ses partenaires pour lui cette proportion. Le professeur Kou nous a rappelé qu'il y a tout de même au moins 9000 centres de santé, c'est-à-dire des lieux dans lesquels la femme pourrait accoucher, mais il est curieux que même en Côte d'Ivoire, même à Jacoba, effectivement, pour ces centres de santé-là, en fait, ces lieux où on peut accoucher sous assistance d'un personnel médical, c'est quand même curieux de constater que les gens refusent d'aller dans ces lieux pour avoir un accouchement sain. Et donc, entre cette situation anormale et la situation escomptée, voulue, souhaitée, qui aurait été que de plus en plus de femmes, voire la totalité, puissent donc accoucher dans les structures sanitaires, en fait dans les lieux sains, entre guillemets. Le chercheur donc, notre candidat, essaie donc de combler le vide entre, ou le gap, entre la situation actuelle, anormale, pathologique, et la situation voulue, escomptée, en recherchant donc des facteurs qui peuvent donc pousser ou qui motivent ou sur lesquels s'adosse le comportement de ces particuliers-là. Donc en fait, c'est ça, un peu résumé, son entreprise heuristique, en plus du candidat, qui est d'ailleurs dans son travail aux pages de 15 à 18. Maintenant, à la page 18-20, il a fait la problématique, il a problématisé. Problématisé, autant pour moi, il a essayé d'ancrer, c'est-à-dire de loger, de domicilier son thème de recherche dans un champ disciplinaire écrit. Le champ disciplinaire, c'est la santé publique. Il a choisi, santé communautaire. Il a donc développé quatre théories. Trois, c'était quatre ou trois? Trois. Trois. Le Health Belief Model qu'il a développé, l'adaptation sociale et les modèles de croyance en santé. Le professeur Etienne suggère qu'on aurait dû ajouter deux, à savoir le modèle socio-écologique et le modèle des trois retards. Nous avons noté vos observations, mais peut-être on serait obligé, si on va le faire, de réduire. C'est-à-dire ne pas avoir cinq théories. Parce que si on part sur le principe en économie que trop d'impôts tuent l'impôt, trop de théories vont tuer notre étudiant. Et donc il faudra parce que trop de théories, c'est trop de travail. Trop de théories, trop de travail. Donc on va peut-être essayer de voir comment enlever certains modèles théoriques ici pour les remplacer par celles que vous avez opportunément soulevées, qui sont assez intéressants. Au niveau de la méthodologie, le candidat a fait un travail d'Hercule, voyez-vous. Non seulement il a travaillé sur deux sites, il a justifié pourquoi il a choisi les deux sites de ces périodes. Il vient de nous dire que les données dans ces deux sites sont plus ou moins différentes, mais il a quand même eu à interroger 500 femmes, donc 500 participantes, et puis 16 personnes de santé, donc ce qui est à son honneur. Ça veut dire qu'il n'est pas allé sur le terrain pour se tourner les doigts. Il a fait un travail vraiment appréciable avec cette masse de données importante, ce qui peut donc justifier le volume de ce travail. Voilà. Au niveau des questions spécifiques, j'y reviens parce que les collègues ont insisté sur ça, j'avais sauté ça dans ma présentation. Il est vrai que les quatre questions spécifiques qu'il a posées sont énumératives. C'est-à-dire qu'on s'attendait à une description, quelle est ou quelles sont. Mais je dois dire que si on se réfère aux travaux de Clifford Geertz, qui a écrit un ouvrage intitulé The Interpretation of Cultures, il n'a pas dit The Description of Cultures. Ça veut dire qu'il y a, certes, l'énumération, mais il y a l'énumération qu'on peut parler de description factuelle, où le chercheur décrit le phénomène, mais il ne s'arrête pas à cette description. Là, il fait une description créatrice et analytique, ça qu'on appelle c'est pour ça qu'on parle de description dense, c'est-à-dire aller au-delà du voile des apparences, derrière le rideau, pour analyser, pour mieux comprendre le comportement de l'acteur. Donc, ça veut dire qu'en fait, si on devait s'arrêter à la simple description, en répondant à la question quelle est, la recherche ne serait pas très approfondie. Donc je consens, moi-même, je fais des cours de méthodologie ici, et je dis aux étudiants que les questions en recherche, quelles sont les questions du comment et du pourquoi, et qu'en quanti, c'est les questions de combien et de quel. Mais je suis quelque part influencé par les méthodologues que j'utilise. Donc ceci est une hérite également pour moi, même pour mes cours, à force de section, à passer à leur dire qu'on peut utiliser lequel, mais lequel qui est énumératif, descriptif, mais penser à la consigne ou au comportement de Clifford Geertz, la description dense, celle qui va au-delà de la description du fait apparent, derrière le rideau des apparences, de voir des apparences pour pouvoir comprendre ce qui se passe, ce qui se cache. Et c'est pour cela que, dans la démarche interprétative du chercheur en sciences sociales, on parle de l'interprétation factuelle, où le chercheur se borne à interpréter dans l'approche éthique, l'approche de l'extérieur, du dedans, du dehors, du dedans, pour voir si on veut reprendre Georges Barandier, où le chercheur se comporte, il décrit ce qu'il observe. Maintenant, dans l'approche éthique, Georges Barandier dira l'approche du dedans, dynamique de l'intérieur, le chercheur effectivement fait corps avec son phénomène. Il n'a plus de distance épistémologique entre lui et son objet, il le décrit de l'intérieur de façon froide. C'est cette attitude que nous avions adoptée ici avec notre candidat. Je pense que c'est ce que je voulais dire. Bon, les résultats, je n'y reviens pas, il a préparé ses résultats sur 4. Les résultats sont clairement adossés aux objectifs spécifiques qui ont été énoncés dans le travail. Lorsque nous rédigions notre rapport de direction avec notre rapport scientifique pour le soumettre à mon collègue de droite, nous disions par rapport à l'ensemble de ce volume, que toute proportion d'accès qui lutte à aboutir à la conclusion que l'institutionnalisation sanitaire visant à dissuader les femmes en communauté ou à domicile accroît les risques de décès matériel. Dans les DS étudiés de Goldison et de Japoma, la population de santé publique, la population de santé autant pour moi, reconnaît les soins de santé primaires qui sont pratiqués dans stratégie. Question des accouchements de fonction sanitaire, mais pourtant sur le terrain, il a révélé qu'il n'existe pas de réelle stratégie pour lutter contre ce phénomène, et c'est la raison pour laquelle il nous a proposé un plan stratégique de réduction des accouchements à domicile, qui est à la page du document 7, de ce document 7 qu'il a adjoint au volume principal. Et dans ce plan, propose effectivement des stratégies culturellement adaptées. Je contacte avec la savance dans le domaine de la SR du professeur Mbou. Nous a conseillé que les 14 piliers étaient trop et qu'il fallait s'en tenir aux piliers essentiels. J'espère que vous avez pris bonne note. Ben, en fait, en proposant ce plan stratégique que de 14 sur 14 piliers sont effectivement le fruit de la cogitation intellectuelle de notre candidat, qui sont donc adossés sur ces data, hein, sur ces données empiriques qu'il a collectées sur le terrain. Donc c'est une initiative louable et il me semble que ce plan stratégique est une initiative, en fait, une retombée majeure de cette thèse. Monsieur le président du jury, nous reconnaissons que nous n'avons pas peut-être rempli entièrement notre mission de directeur de cette thèse parce que nous n'étions pas toujours chaque fois en face avec le candidat. Il faut reconnaître ici que vous nous décrivez souvent, là il faut le relever, et que quelques manquements, quelques faiblesses observées ici peuvent être dues à cela. Donc ceci peut expliquer cela. Je dois pour terminer dire, monsieur le président du jury, comme vous le constatez, notre candidat est courtois. Jusqu'à présent, il a répondu aux questions de façon détendue. Et il est courtois avec le jury. Donc, allez regarder, comme vous le voyez, c'est un jeune homme de bonne famille. Il est bien élevé. Il a un commerce humain très agréable. Il est large. Vous n'avez qu'à avoir pour preuve l'audience qui est assez. Qui est assez compact. Et vous avez également comme pour preuve les remerciements qui nous a servi sur 3 pages. J'ai fait tout pour qu'il les mette sur 1 page. Il a refusé. Donc, presque tout le monde est remercié ici. Et nous sommes tout à fait heureux. Et vraiment, je remercie en dernier lieu. Une fois de plus, les experts, les examinateurs, et nous promettons que leurs observations seront prises en compte, parce qu'effectivement, ces observations vont nous aider à relever la qualité scientifique de ce travail. Merci, monsieur le président du jury.
Merci, professeur. Vous voyez bien qu'il y a une certaine symphonie, même si les tons sont différents. La musique est la même. Et ça montre que le travail est suivi. Le travail n'a pas été abandonné à lui-même. Il a été encadré. Le directeur de thèse principal vient d'assumer sa conduite et de répondre à certaines inquiétudes en le manquant. Merci. Cette responsabilité. Nous allons donner la parole. Vous voyez, nous respectons le genre, hein, sans faire genre. Donc, le jury, toutes les colorations s'y trouvent. Et vous allez voir tout à l'heure que. Madame le professeur Goliken ne vient pas pour faire figure. Elle fait partie des grosses pointures de notre maison. Et nous le lui reconnaissons. Ce professeur, surtout du toit, qui vous connaît déjà pour certains, et d'autres qui apprennent à vous découvrir, sont certainement. Curieux de savoir votre sagacité et votre pertinence habituelle dans ce type d'exercice. Nous vous donnons la parole.
Merci, monsieur le président, pour cette parole donnée. Bonjour, Naël. Souris encore. Tu as dit. D'entrée de jeu, je vais commencer par les civilités d'usage. Je commence par vous, monsieur le recteur. C'est mon deuxième jury avec vous. Je pense que mes deux candidats, celle d'hier et celui d'aujourd'hui, sont très honorés et moi encore plus. Je vous remercie tout spécialement d'avoir accepté de la charge éminente de présider ce jury et d'en assurer la bon, le bon déroulement de la soutenance. Je dis merci au professeur Mebela, je commence par l'extrême droite, qui m'a eu comme étudiante aussi. Et c'est toujours un honneur de partager un jury avec lui. Je dis merci au professeur Mbou, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps dans un jury en Colombie. Et je lui ai dit qu'on avait besoin de lui, parce qu'on avait des soutenances où il devait faire des tests qu'il devait examiner. Et je suis très heureuse de partager cette table avec lui aussi. Je dirais merci à mon patron, le professeur Kibesuke, qui est le directeur de l'UFD, et mon patron à l'UFD. Merci, surtout pour l'accompagnement aussi de ces candidats qui sont les nôtres. Vous nous vous entrez un peu partout, et chaque fois que nous avons des soucis, ou nous voulons une oreille attentive pour nos candidats, vous êtes toujours présents. Je vous dis merci. Et je dirais merci à mon autre enseignant, le professeur Sokpa, qui m'a aussi eu comme étudiante, et avec qui j'ai porté quelques étudiants quand même. Je pense que nous avons porté, j'ai porté 3 étudiants cette année avec lui. Et c'est avec beaucoup d'humilité, vraiment, que j'ai accompagné le professeur dans l'encadrement de Danaël. Toujours, j'ai beaucoup appris. Donc, je vous dis merci. Je reviens à Naël. C'est vrai que ces initiales sont souvent, si nous disons qu'on BA, c'est comme si on parlait de l'autre. Pourtant, c'est le A qui va les différencier. L'un est Alexandre et l'autre est Anaël. Et celui qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le second, Anaël. Le premier a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et le second, c'est moi qui fais de lui ce qui sert aujourd'hui. Et c'est tout à mon honneur, vraiment. C'est un privilège pour moi d'avoir porté les deux enfants de mon mentor. Vraiment, je suis tellement honoré. Alors, Anaël a obtenu son baccalauréat à série A4 espagnol à l'Institut d'Islamat secondaire à Yaoundé en 2011. En 2014, il obtient une licence en anthropologie à l'Université de Douala. Donc, c'est un anthropologue aussi. En 2015, il s'inscrit à l'École des sciences de la santé de l'Université catholique d'Afrique centrale où il obtient une licence en sciences infirmières en 2018. La même année, il s'inscrit dans la même institution en master santé publique, option santé communautaire. Il obtient son master en 2021. Il fait plusieurs formations sur la gestion des incidents de santé publique et la surveillance intégrée des maladies et leur riposte. Et décide en 2022 de s'inscrire à un doctorat PhD. Santé publique, option santé communautaire. Et comme j'ai dit des autres, la vie nous fait le plaisir de l'avoir devant nous aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas dit tout à l'heure que c'était un candidat qui aimait souvent disparaître. Moi, je vais dire que ce candidat est un candidat proactif. Je pense que c'est plus joli que celui qui prend la poule d'escampette. Un esprit libre. On va dire très libre, comme dit Dupont et Dupont. Avec un appétit constant pour l'acquisition des savoirs. Qui positionne son profil comme un catalyseur de croissance. Je préfère parler de toi en ces termes. Prêt à transformer les opportunités en réussite. Quel que soit le vent, on arrive toujours à quelque chose de très beau. Donc ce candidat que nous vous présentons aujourd'hui se distingue par une volonté intrinsèque qui fait de son engagement un véritable une véritable force motrice. Son statut indépendant témoigne de sa capacité affirmée à prendre des initiatives et piloter des projets comme cette thèse de doctorat avec une autonomie de pensée remarquable. J'insiste dessus parce que il n'a pas seulement été là pour nous dire oui, oui, un peu comme on dit quand tu dis oui, on dit alléluia, amen. Chaque fois qu'on avait quelque chose à dire, il voulait quand même avoir donné son point de vue. Et parfois, il se lançait même sans savoir où il allait. Il te disait, bon, je fonce, mais encore, on verra ce que cela donnera. Et je pense que c'est, pour moi, c'était une très belle initiative. Et forger un peu le comportement scientifique que tu as aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est donc avec un honneur, avec honneur et profonde fierté, que je vous présente le travail, ou alors mon appréciation du travail de ce candidat. Un projet qui se distingue non seulement par sa rigueur scientifique, inébranlable, mais aussi par son immense pertinence. Je ne vais pas revenir sur les éléments énoncés par le professeur Sorpa. Ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt la plus-value de cette thèse. Premièrement, au niveau scientifique, sur le plan scientifique, cette thèse a fourni des données scientifiques et nuancées sur un contexte périurbain qui est peu étudié, pour ne pas dire étudié dans ce travail, pour son originalité. Sur le plan opérationnel, en élaborant des stratégies de réduction directement applicables et mesurables, c'est qu'au niveau post-doc, on pourra continuer à suivre ce travail. Et là, je fais un clin d'œil au professeur Kinizuki, qui aime bien la finalité de faire qu'on lui apporte un document fini. Au niveau sociétal, en contribuant de manière directe à l'amélioration de la santé maternelle et néonatale dans les villes du pays. Et l'autre plus-value, qui est pour moi la plus intéressante, c'est au niveau méthodologique. L'approche mixte de ce travail est le cœur de la robustesse de cette recherche. Il ne s'agit pas de faire deux études séparées, mais de les faire interagir pour une compréhension complète de ce phénomène qu'il a porté. La composante quantitative a permis d'obtenir des statistiques solides, identifier avec certitude les facteurs associés aux accouchements en communauté. Cela a assuré la généralisabilité des résultats à l'ensemble de la population étudiée dans les études de santé périurbaine de Japoma et de Colbison. Pour ce qui est de la composante qualitative, cette thèse a exploré les perceptions, les croyances, les valeurs culturelles, les expériences vécues par les femmes, les familles et les prestataires de soins. Mais c'est elle qui donnera la profondeur, dans cette, je parle de cette composante qualitative, elle a donné la profondeur et le sens aux chiffres bruts que nous avons eus. Et pour ce qui est de la triangulation et la validité des données ou de la thèse, l'approche mixte ici a permis la triangulation des données. Si les conclusions quantitatives ont été appuyées et expliquées par les conclusions qualitatives, la validité des résultats a été considérablement renforcée. Cela a rendu les conclusions plus crédibles et donc les stratégies proposées plus acceptables. Et nous pensons qu'après, si nous donnons l'opportunité de continuer, nous verrons avec les autres experts du domaine de l'obstétrique, notamment avec le professeur Mbou, n'est-ce pas, comment faire valider sur un plan plus grand que celui-ci les stratégies proposées par ce travail. Sur le plan de la faisabilité opérationnelle des stratégies, l'étape qualitative a été essentielle pour la conception des stratégies de réduction. Les stratégies élaborées n'ont pas seulement été efficaces, n'est-ce pas, basées sur le quantitatif. Elles sont acceptables, appropriées culturellement, et ce culturellement, là, nous le pesons vraiment, et faisables, acceptées par les communautés. Et avant de clore mon propos, je voudrais revenir sur la question des femmes décédées sur le trône, je voudrais revenir dessus, le fait qu'il y a eu une question qui l'interpellait sur le fait de n'avoir pas mis un point d'honneur à poser des questions sur les femmes décédées en communauté. La principale mission de cette thèse, je pense, alors nous pensons, est préventive et stratégique. Nous pensons que cette thèse visait à identifier les facteurs associés à l'accouchement en communauté afin d'élaborer des stratégies de réduction visant les futures naissances. Proposer une intervention pour les femmes décédées relève de l'analyse post-mortem, comme les enquêtes sur les décès maternels et la riposte, et du système médico-légal ou funéraire, et non de la prévention primaire ou secondaire, ciblant le comportement d'utilisation des services de santé. Par ailleurs, l'élaboration de solutions efficaces pour les femmes décédées nécessite une autre approche et des outils méthodologiques différents de ceux employés dans cette étude mixte. Donc nous pensons que cet élément soulevé ici pourrait peut-être à l'avenir nous permettre de faire une autre étude. Je ne sais pas combien de sujets il y aura en post-doc, mais je pense que cela permettra, c'est pas notre focus ici, mais nous le gardons quand même quelque part pour pouvoir voir comment travailler dessus ultérieurement. Cette thèse est donc un projet ambitieux qui allie rigueur scientifique et pertinence sociale essentielle pour améliorer la santé publique à Yaoundé. Voilà. C'est une contribution majeure qui fait honneur à la recherche en santé publique. C'est un travail d'exception, ça c'est sans te vanter vraiment, porté par un candidat brillant, parce que tu es brillant, engagé, parce que tu l'as été, et promis à un avenir scientifique remarquable. Cher Benjamin Anaël, tu as eu l'occasion ici de défendre la richesse et l'originalité de ton travail, mais surtout sa portée scientifique. Et tout comme nous l'avons dit aux autres, et comme je l'ai dit hier à Mika, nous sommes fiers du chemin que tu as parcouru jusqu'ici, n'est-ce pas, et te souhaitons bon temps. Monsieur le président du jury, je pense avoir dit en quelques mots ce que j'avais préparé pour ce candidat et répondu à l'un des points qui me semblait cruciaux pour la compréhension du travail. Et je m'associe au professeur Sokpa, qui serait totalement notre société.